Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous à l'écoute de ce bulletin d'informations. Au sommaire aujourd'hui, le procureur de la République Pavel Zeman met fin à la poursuite des trois anciens députés ODS. Le recours d'Areva a été rejeté dans l'appel d'offres pour la centrale de Temelin et un afflux des procès s'attend en août pour le remboursement des frais bancaires exorbitants. Le procureur de la République Pavel Zeman a annulé l'enquête de trois anciens députés ODS, Marek Schneider, Petr Tluchoš et Ivan Fuksa, dans l'affaire de la corruption politique présumée. Le dossier retourne donc à la procurature de la ville d'Olomouc, présidée par Ivo István. Ce dernier ne s'est pas montré surpris par rapport à la décision prise ce vendredi par Pavel Zeman. Il a déclaré vouloir reformuler l'acte de l'accusation et reprendre l'enquête. La procédure judiciaire engagée contre Yana Nadiova, la chef du cabinet de l'ancien Premier ministre Petr Nečas, ainsi que contre Roman Bocek, l'ancien adjoint du ministre de l'Agriculture, se poursuivra. Petr Rafaï, le président du Bureau pour la protection de la concurrence, a rejeté le recours du géant français du nucléaire Areva qui protestait contre son exclusion de l'appel d'offres visant à construire deux nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud. Il a ainsi confirmé la première décision de son autorité qui avait été connue en février dernier. La société Areva, écartée en octobre 2012 de l'appel d'offres organisé par la firme énergétique tchèque ČEZ pour ne pas avoir respecté le cahier des charges, n'a de cesse depuis de contester son élimination. L'entreprise française peut encore porter plainte auprès du tribunal régional de Brno. La police soupçonne deux personnes du délit de nier, mettre en cause, approuver, justifier le génocide. D'après l'article 405 du Code pénal, ils encourent une peine de prison entre 6 mois et 3 ans. Les autorités de justice ont lancé une enquête relative à la publication du livre « Discours d'Adolf Hitler » par la maison d'édition Guide Média. D'après les critiques de ce titre, les discours font partie des instruments de la propagande et en absence du commentaire professionnel, ils risquent d'induire une compréhension fallacieuse. Pavel Kamas, l'éditeur du livre, qui indique d'être un des deux accusés, argumente à sa défense que la sélection des discours inconnus au public sert de fondement pour une création libre d'opinion. Selon le politologue Miroslav Mareš, l'issue de l'affaire permettra de déterminer l'étendue de l'article 405 du Code pénal. Jusqu'à présent, 5 procédures judiciaires engagées par un client contre sa banque en vue d'obtenir un remboursement des frais bancaires injustement prélevés ont été clôturées. Le bilan est donc 3-2 au profit des banques. Cependant, avec la mise en place de l'initiative Poplatkyspäť.cz, équivalent du remboursement des frais.cz, le nombre de procès s'accroîtra de manière significative à partir du mois d'août. Le fondateur du site, l'avocat Petr Niemetz, affirme avoir reçu 30 000 procurations qui lui permettront de standardiser les accusations et de faciliter la procédure, et cela à la place des clients individuels. Afin de pouvoir se faire présenter par l'équipe des avocats de Petr Niemetz, un client doit soumettre sa demande en ligne et couvrir des frais pour entamer une procédure judiciaire. Ces frais s'élevaient à 400 couronnes, environ 16 euros jusqu'à présent. Néanmoins, puisque les banques s'opposent systématiquement à ces demandes, une procédure plus complexe est donc nécessaire. Certaines cours ont élevé les frais à 1000 couronnes, soit 40 euros. L'initiative Poplatkyspäť.cz représente une innovation dans la lutte souvent sans succès contre des institutions bancaires et peut servir d'inspiration à certains clients qui, au lieu de faire valoir leurs droits, évitaient ce passage devant le juge auparavant. Vladimir Yevtushenkov, milliardaire russe et propriétaire du groupe financier AFK Systema, considère l'achat de Telefonica Czech Republic, la société tchèque de communication, avec plus de 5 millions de clients. Telefonica a récemment gagné 113 000 nouveaux clients en introduisant un tarif free qui propose des appels illimités. Le magnat russe Vladimir Yevtushenkov a déclaré pour l'agence Bloomberg que l'acquisition de Telefonica représentait une entrée attractive au marché européen. Néanmoins, il s'agirait d'une option parmi d'autres. Yevtushenkov envisage également l'expansion sur le marché indien ou russe. Ce vendredi débute dans la ville de Uherské Hradiště au sud-est de la République tchèque le plus grand festival des films hors compétition, l'École d'été du film, dont l'ouverture solennelle s'est tenue à 18h ce vendredi. Le théâtre Slovácké divadlo propose aux participants du festival une sélection des films portugais de la période entre 1929 et 1931. Parmi les vedettes de cette 39e édition du festival se trouve Pedro Costa, le metteur en scène portugais du cinéma d'auteur, ou encore Jerzy Hoffman, le réalisateur polonais des films historiques de grand écran. Le festival projettera également la première du film Capital de Costa Gavras. Et pour terminer la météo, la fin de la semaine sera particulièrement chaude en République tchèque. Samedi, jour de fête de tout le Vyaroslav, la température oscille entre 31 et 35 degrés pour les maximales. Dimanche, c'est également la canicule, ce jour de fête des Victors. Les températures risquent d'atteindre 40 degrés Celsius. Les météorologues promettent une légère baisse en température pour la semaine prochaine, mais avant cela, le danger des incendies reste élevé. Certaines régions ont même émis une interdiction d'allumer le feu dans la nature. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Lucia Drexelova. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Lucia Drexelova pour son très intéressant bulletin d'information. Au sommaire de ce vendredi, la porcherie installée sur un ancien camp où les nazis ont fait transiter des Roms durant la Seconde Guerre mondiale fait toujours polémique. C'est cette fois le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui appelle la République tchèque à détruire ou à déplacer cette ferme. Notre rubrique économique sera consacrée à plusieurs thèmes au cœur de l'actualité tchèque et européenne, le coût de la vie, le chômage des jeunes et la transition énergétique. Mais avant ce programme alléchant, place à Miloš Zeman, ce président hyper médiatique qui a mis fin hier à 5 mois de disette diplomatique en signant les décrets instituant 15 nouveaux ambassadeurs. Bonne écoute à tous et à toutes. Après plusieurs mois d'immobilisme diplomatique provoqué par le différend opposant l'ancien ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, et le président de la République, Miloš Zeman, ce dernier a signé ce jeudi les décrets de nomination de 15 nouveaux ambassadeurs. Le chef de l'État a profité de la mise en place de son gouvernement d'experts pour faire valoir son point de vue sur la diplomatie tchèque. Denisa Tomanova.
Depuis ce jeudi, 15 nouveaux ambassadeurs prendront leur poste en Pologne, au Danemark, au Portugal, au Luxembourg, ainsi que dans certains pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, car Miloš Zeman a enfin signé leur décret de nomination. Or, depuis le mois de mars, le président de la République avait refusé à 3 reprises la liste des nouveaux ambassadeurs soumise par l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, entraînant ainsi un marasme diplomatique. L'opposition entre les deux hommes s'était essentiellement manifestée sur des postes importants en Slovaquie et en Russie. Plus précisément, Miloš Zeman souhaitait voir au poste d'ambassadrice en Slovaquie Livia Klausová, l'épouse de l'ancien président Václav Klaus, et au poste d'ambassadeur en Russie le cosmonaute eurodéputé communiste Vladimir Remek. Or, Karel Schwarzenberg avait refusé de soumettre leur nom en raison notamment du fait que tous deux avaient soutenu Miloš Zeman lors de l'élection présidentielle au mois de janvier. Mais avec la démission du gouvernement Nečas et la formation du nouveau gouvernement de Jiří Rusnok, nommé lui-même par Miloš Zeman, la nomination des ambassadeurs s'est, semble-t-il, débloquée comme par magie. Le chef du bureau international du château de Prague, Hinek Kmunicek, s'est exprimé ce jeudi quant à la possible nomination de Klausová et Remek lors de la seconde vague de désignation des ambassadeurs le mois prochain.
Bien évidemment que le débat portera sur ces deux noms. Toutefois, c'est le gouvernement qui doit décider en premier lieu. C'est-à-dire que lorsque le ministre des Affaires étrangères sera d'accord sur ces deux noms, et Jan Kohout a précédemment affirmé qu'il les approuvait, il les présentera au gouvernement, qui devra les accepter. Et ce n'est qu'après acceptation qu'intervient le rôle du président.
Le chef du bureau international du château de Prague, Hinek Kmunicek, a tenu à assurer ce jeudi que les 15 premiers ambassadeurs récemment nommés ont été précédemment proposés par Karel Schwarzenberg lui-même. Les 10 prochains noms d'ambassadeurs devant être rendus publics le mois suivant doivent réunir également des diplomates de carrière. Néanmoins, pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, il s'agit là d'une extension continue des pouvoirs du président de la République.
Un des buts de la mise en place de ce gouvernement d'experts par Miloš Zeman a été de lui rendre possible la nomination selon sa volonté arbitraire.
Si les postes d'ambassadeurs en Russie et en Slovaquie ont créé la discorde, Hinek Monicek, le chef du bureau international, affirme qu'une entente sur les noms de Klausová et de Remek existe actuellement. Le ministre des Affaires étrangères, Jan Kohout, confirme indirectement.
Les ambassadeurs doivent être des personnes qui ouvrent également la porte à la sphère entrepreneuriale. Et de ce point de vue, les personnes de Livia Klausova ainsi que de Vladimir Remek répondent tout à fait à ces conditions.
S'il s'agit d'une alternance routinière au sein de la vie politique, d'après le directeur de l'Institut des relations internationales, Petr Kvatofil, le problème réside ailleurs.
Le problème crucial réside dans la relation triangulaire entre le ministère des Affaires étrangères, le bureau du gouvernement et le président de la République, car tous les trois veulent, dans une certaine mesure, s'immiscer dans la politique internationale. Et s'il existe des liens politiques entre eux, alors cela peut se projeter justement sur la nomination des ambassadeurs. Les noms des deux personnes qui font polémique sont plutôt de l'ordre de controverses nationales. Cela n'a pas vraiment de retentissement à l'étranger.
Néanmoins, Petr Kvatofil rajoute.
Bien évidemment, la question clé est de savoir combien de temps durera le gouvernement Jiří Rusnok. Concernant les relations à long terme entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, je crois que ce qui sera intéressant, ce n'est pas la situation sous le ministère de Jan Kohout, mais l'évolution de la situation après les nouvelles élections, qui prévoit probablement une victoire des sociodémocrates.
Les relations diplomatiques peuvent ainsi encore radicalement évoluer.
Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a appelé ce jeudi la République tchèque à fermer une porcherie située sur le site d'un ancien camp de concentration nazi destiné aux Roms. Sujet d'une polémique depuis la chute du communisme, cette exploitation porcine reste pourtant sur pied, officiellement pour des raisons financières, malgré les protestations de la communauté rom qui dénonce l'irrespect des autorités tchèques face à la mémoire des victimes tziganes de l'Holocauste. Plus qu'un simple problème d'argent, c'est la perception des Roms au sein de la société tchèque qui est au cœur du débat. Julien Maurice.
Située à Leti, au sud de la Bohême, une grande exploitation élève près de 13 000 porcs et représente l'un des poumons économiques de la région. Exactement au même emplacement, 70 ans plus tôt, se trouvait un camp d'internement de Roms. 1308 tziganes ont été emprisonnés à cet endroit entre 1940 et 1943. 326 y ont trouvé la mort, dont 241 enfants. D'autres ont été transférés vers les camps d'extermination, dont 500 à Auschwitz-Birkenau. Construite sous le régime communiste dans les années 70, la porcherie est passée entre des mains privées suite à la révolution de velours. Depuis plus de 20 ans maintenant, la question de sa destruction ou de son déplacement se pose, mais rien n'a jusqu'alors été mis en œuvre. Le motif principal reste celui du coût trop élevé d'une telle opération. En effet, elle pourrait représenter une enveloppe de plusieurs centaines de millions de couronnes, dont l'État affirme ne pas disposer. Une situation que reconnaît Monika Šimunková, la commissaire chargée des droits de l'homme au sein du gouvernement.
Nous savons très bien que la volonté politique pour faire quelque chose concernant cet élevage de porcs n'a pas pu être approfondie, et ce principalement pour des raisons financières.
En République tchèque, les lieux qui ont été les plus touchés par les drames de la Seconde Guerre mondiale sont des endroits dont la mémoire tente d'être préservée du mieux possible et souvent avec succès, comme à Térézine ou à Lidice, mais pas à Leti. Depuis 2010, un mémorial ainsi qu'une exposition permanente en souvenir des victimes existent pourtant, séparés de la porcherie par quelques arbres. L'an dernier, le mémorial a attiré plus de 12 000 visiteurs. Son but est notamment d'attirer l'attention du public face aux manifestations croissantes de l'intolérance de la société tchèque vis-à-vis de la minorité rom et de son histoire. Les récentes manifestations anti-rom soulignent encore la discrimination subie par cette communauté dans l'ensemble du pays, notamment en Bohême du Sud. Pour l'historien Michal Per, c'est l'ignorance des faits historiques qui est à l'origine de la situation actuelle.
L'Holocauste des Roms est longtemps resté à l'arrière-plan. On n'a pas assez débattu de cela, on a peu écrit sur ce sujet. Il a fallu attendre les années 1990 pour commencer à en parler et reconnaître que les Roms ont été victimes de la persécution nazie sous le protectorat de Bohême-Moravie.
Pour de nombreux militants, la majorité des politiciens tchèques redoutent de perdre leurs électeurs s'ils prennent des décisions en faveur de la communauté rom, alors même que le climat anti-Tzigane se renforce dans le pays. Le Parlement européen a déjà demandé à plusieurs reprises aux autorités tchèques de faire disparaître la porcherie de cet endroit de recueillement. Un paradoxe, quand on sait que des fonds européens ont permis aux propriétaires de la porcherie de financer un bassin de décantation. Dans ce contexte, la demande du Comité des droits de l'homme de l'ONU afin de mettre fin à la présence inopportune de cette porcherie a peu de chances d'être entendue. Même si le comité a donné un délai d'un an aux autorités tchèques pour réagir et ainsi donner une preuve de respect envers la culture et l'histoire rome. Bien que la République tchèque adhère au pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci ne dispose pas en effet de mécanismes punitifs. Satisfait d'une initiative onusienne, le président du comité pour l'indemnisation de l'Holocauste rom, Czeniek Ružička, est néanmoins conscient qu'elle n'aura certainement qu'une portée symbolique.
Nous sommes convaincus que ce sujet n'a pas beaucoup d'importance dans le débat politique tchèque. Si cette initiative était appuyée par des sanctions, cela aurait un impact différent.
Le camp de Letín n'était pas le seul camp d'internement des Roms sous le protectorat de Bohême-Moravie. Un autre camp avait été construit en Moravie, à Hodonín. Il faisait office de centre de vacances jusqu'en 2009, avant de devenir un lieu de mémoire de l'Holocauste rom digne de ce nom.
Dans notre rubrique économique, nous évoquons l'actualité de l'économie tchèque à travers plusieurs sujets, la hausse minime du salaire minimum, la fin des aides aux énergies renouvelables et un projet pour aider les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail.
Économie, commerce.
Alors que l'économie tchèque connaît la plus longue récession de son histoire récente, se traduisant par des chiffres importants du chômage, les Tchèques doivent de plus faire face à une inflation non négligeable qui réduit leur pouvoir d'achat. La semaine dernière, l'Office tchèque des statistiques publia ainsi des données identifiant une nouvelle hausse des prix des carburants. Surtout, c'est en République tchèque que le prix des aliments a le plus augmenté en Europe l'an passé. Selon le Bureau de l'information et de l'économie agraire, les denrées sur les étals tchèques ont ainsi subit une hausse moyenne de 7% en 2013. Des prix qui devraient croître à nouveau cette année, mais de façon plus modérée, et ce principalement pour deux raisons. Les agriculteurs s'attendent en effet à des récoltes médiocres après un printemps froid. Plus localement, les inondations en Bohême au mois de juin devraient également avoir un impact négatif. Ensuite, la République tchèque est dépendante de certaines importations de matières premières qui ont également eu tendance à être plus chères cette année. Dans le même temps, le gouvernement de Jiří Rusnok a décidé d'une augmentation de 500 couronnes, soit près de 20 euros, du salaire minimum tchèque, une mesure entreprise par le cabinet précédent, celui de Petr Nečas, mais que celui-ci n'avait pourtant pas voulu entériner, alors que syndicats et patronat étaient tombés d'accord à son sujet. Le salaire minimum, qui n'avait pas été réévalué depuis 2007, s'établira donc à 8500 couronnes, soit environ 320 euros, et ce dès le mois prochain. Professeur dans une école d'économie pragoise, Daniel Munich estime que cette majoration insignifiante n'aura quasiment pas d'effet.
L'économie n'aime pas subir de grands chocs. S'en tenir 6 ans à un certain paramètre et devoir le changer subitement. Il est préférable d'avoir des changements graduels. Mais je pense que l'effet de cette mesure sera très très faible et qu'elle ne sera pas même observable dans les statistiques. Cette hausse est relativement petite et le niveau du salaire minimum reste en République tchèque l'un des plus faibles d'Europe.
« 120 000 personnes, c'est-à-dire 3% de la population active seulement, vont bénéficier de cette légère augmentation qui devait dans un premier temps atteindre 1000 couronnes, d'un salaire minimum qui reste trop peu élevé pour faire face au coût de la vie. Quelques esprits chagrins, comme celui de l'ancien ministre des Finances, le conservateur Miroslav Kalousek, s'inquiètent toutefois du fait que cette mesure pourrait conduire certains chefs d'entreprise à des licenciements. Ancien ministre social-démocrate et eurocommissaire aux affaires sociales, Vladimir Spidla ne partage pas cet avis. Il rappelle que la société tchèque fonctionne sur le principe que le travail mérite une rémunération décente. Ainsi, cette légère hausse du salaire minimum contribue à lutter contre un phénomène qui s'est développé ces dernières années en République tchèque, celui des travailleurs pauvres, ces gens qui ont un emploi mais qui vivent pourtant en dessous du seuil de pauvreté. 18% des actifs tchèques entreraient dans cette catégorie. Vladimir Spidla explique.
Le salaire minimum a un effet plutôt marginal sur cette question de savoir si des entreprises vont devoir licencier. Il s'agit plus sûrement d'une question culturelle d'éthique. Le travail doit permettre aux gens de vivre et de se trouver dans des situations meilleures qu'avec des allocations sociales. Et c'était aussi une question sociale, car cela est prouvé, il n'y a pas de débat en la matière. Le salaire minimum incite des personnes à investir le marché de l'emploi plus que s'il n'existait pas. Ceux qui ne sont pas sur ce marché de l'emploi doivent d'une façon ou d'une autre trouver de quoi vivre. Soit ils effectuent un travail non déclaré, ce qui est immoral et va à l'encontre de la société, soit ils perçoivent des allocations. Nemorální a poškozuje to
společnost jako takovou, anebo byly na dávkách. Vladimír Spidla remarque également que les personnes qui ont un emploi payent des cotisations sociales. En République tchèque, le salaire minimum correspond à 32% du salaire moyen, le taux le plus faible d'Europe. Alors que le coût de la vie augmente, même avec cette nouvelle hausse du salaire minimum, il ne permet pas de vivre dignement. Le gouvernement de Jerzy Rusnok s'annonce aussi peu écologique que son prédécesseur, alors que des pays comme l'Allemagne font le pari de la transition énergétique, qui bien que coûteuse est génératrice de milliers d'emplois et ouvre la voie vers un développement plus propre et respectueux de l'environnement, la République tchèque envisage quant à elle de limiter les aides au secteur des énergies renouvelables. En ce sens, un texte de loi validé par le gouvernement propose que les nouveaux projets dans les domaines du solaire et du biogaz ne soient plus aidés à partir de janvier 2014 et ceux ayant trait à l'hydraulique ou à l'éolienne l'année suivante. Dans le même temps, les subventions accordées avant ces dates seraient plafonnées. Le spectre politique dans son ensemble apparaît à l'unisson sur la question, prenant acte des plaintes émanant des industriels, lesquels dénoncent des subventions qui nuiraient à la concurrence. Les professionnels du photovoltaïque eux-mêmes accueillent cette mesure annoncée depuis quelques mois sans broncher, à l'image de Tomáš Baloch, expert au sein de l'association photovoltaïque tchèque.
Je pense que les investisseurs, comme les entreprises de montage et comme les fabricants de composants de panneaux photovoltaïques, sont préparés à franchir cette étape. Au moins, ils sont conscients de ce changement et l'attendent. Pour ma part, je suis certain que cela ne signifie pas la fin des installations de centrales photovoltaïques en République tchèque.
Le secteur photovoltaïque tchèque, le quatrième plus important en Europe, ne jouit pas d'une image flamboyante. La mauvaise utilisation des subventions a conduit à une surévaluation du prix d'achat de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques. Les consommateurs ont évidemment dû en supporter le surcoût, une perte estimée à 40 milliards d'euros. Mais ce projet de loi ne se contente pas de couper les vivres à l'énergie solaire, mais bien à toutes les énergies renouvelables. Et c'est là que le bât blesse. Les écologistes accusaient déjà le gouvernement de Peter Nečas de prendre prétexte de la gestion discutable des fonds destinés aux photovoltaïques pour supprimer les aides aux énergies propres. Les députés n'exprimant eux pas de réserve vis-à-vis de ce texte, le ministère de l'Industrie souhaite le faire adopter en première lecture à la Chambre basse de l'Assemblée. L'État veut soutenir les entreprises qui emploient des jeunes fraîchement diplômés et ne disposant donc pas d'expérience. Les employeurs exigent bien souvent de leurs potentiels recrues qu'elles aient déjà travaillé dans leur domaine d'activité. Et il est parfois difficile pour les personnes sortant de leurs études et ne pouvant justifier d'une telle expérience de trouver un emploi. Les bureaux du travail, l'équivalent tchèque de Pôle emploi, connaissent bien ce problème, eux qui voient affluer un nombre conséquent de demandeurs d'emploi en septembre quand, une fois les vacances terminé, de jeunes diplômés viennent se lancer dans le bain de la vie active. 140 000 personnes de moins de 30 ans se trouvent ainsi actuellement au chômage. Pour les aider, l'État pourrait aller jusqu'à payer l'intégralité de leur salaire, jusqu'à 24 000 couronnes toutefois. C'est un projet du ministère des Affaires sociales, portefeuille désormais aux mains de František Koníček dans le gouvernement de Jiří Rusnok. Pour peu que les employés donnent un travail complet à un jeune, le salaire de ce dernier pourrait être payé par l'État durant 6 mois voire un an. Une enveloppe de plus d'un milliard de couronnes, soit près de 40 millions d'euros, est prête pour financer ce dispositif. 85% proviendrait du Fonds social européen et le reste du budget tchèque. Tout le monde ne pourra cependant pas profiter de ce soutien et ce sont les bureaux du travail qui choisiront les heureux bénéficiaires en lien avec les employeurs. Il devra s'agir de jeunes inscrits au chômage depuis au moins 4 mois et n'ayant pas plus de 2 ans d'expérience dans le monde du travail. La radio tchèque fait état de certaines critiques, craignant que ce projet n'entraîne des abus. Ces voix discordantes imaginent par exemple un chef d'entreprise créant un poste fictif pour son neveu. Celui-ci recevrait de l'argent de l'État et tonton se flatterait de son sens de la famille. Les bureaux du travail ne comptent cependant pas enquêter sur les relations des jeunes diplômés susceptibles de bénéficier de cette aide. Ce dispositif devrait concerner 3000 jeunes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec cette rubrique économique. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Maignan. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.